Bonjour à tous, vous êtes bien sur Fréquence Mistral et c'est l'heure de Force 7, un magazine d'information préparé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
La crise inédite, visite historique. Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, était au centre de vaccination de Manosque. Nous l'entendrons dans un instant. La pénurie de matériaux s'ajoute à la situation économique pour les entreprises du bâtiment. Nous entendrons Julien Rey, qui préside le BTP 04. Les Alpes de Haute-Provence lancent un programme d'accompagnement personnalisé à la rénovation énergétique avec l'appui du parc du Luberon et l'Agence pour la transition énergétique. Nous entendrons les principaux acteurs du dossier dans ce magazine. Le CHICAS, structure qui gère les hôpitaux de Gap et Sisteron, vit une crise interne préoccupante. La mutualité française est inquiète pour les services et les patients. Le maire de Castellane, Bernard Liperini, est très attentif à la situation économique locale. Véronique Herman l'a interviewé. À Sisteron, tous espèrent que la foire exposition 2021 se tiendra bien en octobre. Le reportage de Chris Alessandri dans un instant. Histoire, il y a 100 ans, le Petit Briançonnais, journal local, évoquait la situation économique de la France. Nous allons feuilleter les archives avec Arnaud Gagneux pour un voyage dans le temps pas si lointain. Olivier Véran, un ministre sur le terrain, des vaccins.
La crise sanitaire actuelle est inédite et cette visite ministérielle, elle, est historique. Un ministre de la Santé à Manosque, de mémoire de journaliste, ce n'était jamais arrivé. Membre important du gouvernement, souvent sous les feux de la rampe et de l'action, Olivier Véran en fait plus qu'une simple opération de communication. Guidé par son ami Christophe Castaner, député des Alpes de Haute-Provence, il a été accueilli par plusieurs personnalités, les parlementaires du département, le maire de Manosque et plusieurs élus, bien sûr la préfète du 04 et la sous-préfète de Fort-Calquier, ainsi que le directeur de l'ARS ou encore celui du groupement hospitalier de Manosque. Pas de déclaration très éclairante à l'issue de sa visite, Olivier Véran les réservant plutôt, depuis de longs mois, aux conférences de presse de Matignon et de l'Élysée. Mais par contre, des contacts brefs mais courtois avec les professionnels de santé, des élus du territoire et également des citoyens attendant patiemment leur injection, chacun son lot de demandes et revendications face au ministre en direct. Écoutons la déclaration du ministre des Solidarités et de la Santé à l'issue de son escale manosquine, Olivier Véran.
Bonjour à tous, je suis ici à Manosque en compagnie de Christophe Castaner dans ce département des Alpes de Haute-Provence où j'ai visité le centre de vaccination en compagnie des élus locaux, des médecins, des soignants, libéraux et hospitaliers qui permettent à la campagne vaccinale de prendre toute son ampleur. Dans ce centre, par exemple, nous sommes passés de quelques 400 vaccinations par semaine à plus de 1200 vaccinations par semaine. Et bientôt, ce sera plus de 2000 vaccinations et peut-être encore plus de 3000 vaccinations par semaine, illustrant l'augmentation des livraisons progressives qui nous permet de tenir et de vacciner la population. Je suis ici aussi dans un département qu'on qualifie de rural pour bien montrer d'ailleurs que les centres de vaccination, il y en a plus de 1500 dans le pays, vous le savez, permettent de vacciner toutes les populations, qu'on soit en milieu urbain, en milieu périurbain et également en ruralité. Nous avons cette attention particulière portée aux populations qui sont dans ces territoires ruraux. Par ailleurs, aujourd'hui, vous le savez, c'est un jour particulier pour la vaccination. C'est le premier jour où les Françaises et Français âgés de 60 ans et plus peuvent prendre rendez-vous et se faire vacciner en centre, en vaccin ARN messager. C'est également le premier jour où les personnels de l'éducation nationale, les personnels des forces de sécurité, de la petite enfance, âgés de 55 ans et plus, peuvent bénéficier de créneaux préférentiels, de fast-track, comme on dit, pour pouvoir se faire vacciner. J'ai vérifié avec la préfète du département, il y a ici 1000 personnes qui sont concernées, et nous avons livré 1000 doses d'AstraZeneca, qui sont disponibles en pharmacie, chez les médecins, mais également dans un centre de vaccination, pas très loin d'ici, à Digne, qui sera ouvert ce week-end, notamment demain, samedi, pour proposer cette vaccination en circuit court pour les publics prioritaires. Et puis par ailleurs, quelques données actualisées que j'ai eues tout à l'heure. Nous avons vacciné, c'est symbolique, mais c'est fort, factuellement 100% ou quasiment 100% des résidents des maisons de retraite médicalisées ont reçu une première dose de vaccin et trois quarts ont reçu leurs deux injections. Et la vaccination chez les soignants aussi a beaucoup progressé dans notre pays. Nous atteignons 80% de soignants âgés de 50 ans et plus qui ont bénéficié d'au moins une injection de vaccin. Et plus des deux tiers des soignants, tous âges confondus, se sont fait vacciner au moins une première fois. Et nous gagnons 1% de plus chaque jour, ce qui veut dire que l'engouement des Français et des soignants et des personnes âgées ne se dément pas. Et c'est tant mieux parce que nous savons que cette vaccination, c'est le moyen, c'est la clé pour pouvoir sortir de cette pandémie.
Construction, les matériaux manquent aux entreprises.
Les professionnels du bâtiment vivent une situation totalement inédite due à une pénurie de matériaux. Alors que le travail et l'activité, notamment de rénovation, avaient bien repris, aujourd'hui, de nombreux chantiers sont dans l'obligation de s'arrêter, faute de fournitures, bois, ciment par exemple. Sans compter l'augmentation des prix, déjà constatée. Frappé par les confinements de ces derniers mois, le secteur demande le gel des pénalités de retard pour éviter la catastrophe. Le président de la fédération du BTP 04 exprime son inquiétude au micro d'Odile Frison. Julien Rey.
Le BTP a été impacté en début du premier confinement au niveau du travail parce que il y a des protocoles qui ont été mis en place et on n'avait pas de quoi assurer ce protocole. Concrètement, il y a eu entre 1 et 2 mois d'arrêt l'année dernière, selon les entreprises. Mais finalement, on fait partie des secteurs qui, depuis le début, ont pu bosser. Dès qu'on a pu avoir le gel, les masques, tout ce qui était, que les protocoles ont pu être mis en place, on a pu bosser. Donc on ne peut pas dire qu'on a été arrêté. Par contre, effectivement, il y a eu une désorganisation l'année dernière sur tout un tas de choses qui nous impactent, notamment le dépôt des permis de construire. Il y a eu une grosse désorganisation dans les services instructeurs parce que les gens ont été arrêtés, n'étaient pas forcément au travail. Donc ça a créé des décalages. On était à cheval sur une année électorale. Donc voilà, le confinement a créé énormément de décalages dans la mise en place des nouvelles équipes et la mise en place des nouveaux projets qui sont les chantiers de nos entreprises. Donc tout ça a créé une désorganisation incroyable. Et en fin d'année, on annonçait des chiffres catastrophiques pour le début d'année. Maintenant, tout le monde s'est retroussé les manches, a entendu notre cri d'alerte à l'automne. Et clairement, il y a eu énormément de travail, alors principalement dans la rénovation. Mais c'est vrai que les gens également, au niveau de nos clients particuliers qui ne peuvent plus partir en vacances, qui ne peuvent plus aller au restaurant ou au théâtre ou au cinéma, ces gens se sont tournés vers la rénovation de leur habitat et ça a créé un marché important pour nos entreprises. Donc effectivement, la chose qui nous inquiétait à l'automne ne s'est pas produite. En tout cas, notre cri d'alerte a été entendu et les entreprises avaient plutôt beaucoup de travail. Les industriels, l'année dernière, ont fait face à un arrêt brutal de leur production et de l'écoulement de leur production. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à la reprise? En priorité, ils ont commencé par écouler leur stock. Et ils ont tenu le stock au plus bas parce qu'on annonçait une année 2021 des plus molles en termes de construction. Donc, ils ont eu une reprise de production qui était plus lente et ils ont travaillé sur l'écoulement des stocks. Et là, aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec une demande de 20% plus forte sur les matériaux. Les fournisseurs n'ont plus de stock. Et ils ont beau essayer de produire au maximum, ils n'arrivent pas à faire face à la demande. Donc là, nos fournisseurs et négoces marchands de matériaux se battent au quotidien. On a eu l'intervention donc de Bruno Richard tout à l'heure, qui est le directeur de la SAMC04, qui nous a expliqué un petit peu son combat quotidien pour essayer d'approvisionner ses dépôts et permettre à ses clients de continuer leur chantier. C'est un combat clairement quotidien. Et là, aujourd'hui, ils ont beau se battre, il y a des filières qui n'arrivent plus du tout à approvisionner. Et donc, dans les jours à venir, on va avoir effectivement des arrêts de chantier. Et ce qu'on n'a pas du tout vu venir, c'est cette pénurie de matériaux qui est due à tout un tas de phénomènes qui se sont additionnés avec une très forte demande au niveau des matières premières et au niveau international de la Chine et des États-Unis qui ont commencé à tendre le marché sur certains matériaux. Au niveau des bois de construction, on a un phénomène qui se rajoute, qui est un insecte, la scolite, qui se propage à allure grand V, qui pourrit des bois. Donc aujourd'hui, il y a une partie des bûcherons qui se consacrent à abattre des arbres pour limiter la propagation de cet insecte et qui du coup impacte la production pour les bois de construction. Il y a également une très forte demande au niveau des États-Unis, au niveau de la Californie particulièrement, suite aux incendies qui ont ravagé la Californie il y a un peu plus d'un an et qui du coup raflent une très grande partie des bois de construction au niveau mondial. Certains de nos fournisseurs nous annoncent qu'ils vont jusqu'à payer 4 à 5 fois plus cher que nous Et du coup, forcément, les fournisseurs se dirigent vers la filière américaine pour vendre leur bois. Donc, les industriels comme nous n'ont pas eu la bonne lecture, ce qui était très compliqué. Hein. On est dans une désorganisation totale de ce contexte économique et on annonce des pénuries donc de PVC pour tout ce qui est canalisation pour les TP, pour tout ce qui est canalisation des plombiers, des rails placo, du placo, de l'isolant, de tout ce qui est isolant biosourcé, des peintures, du ciment, des bois de construction, des panneaux d'OSB, des panneaux de construction, de l'électroportatif. Là, toute la filière commence à être touchée et on commence à avoir des chantiers arrêtés. Donc, situation imprévisible et inédite que clairement personne n'a vu venir, ni la Fédération du bâtiment au niveau national, ni au niveau local. Donc là, depuis un petit mois au niveau national, ils ont commencé à voir venir cette crise et cette situation. Et on commençait à alerter, et puis là, on le touche du doigt à tous les niveaux. Donc, on va droit vers des chantiers qui s'arrêtent dans les jours à venir. Voilà, c'est imminent. Notre grosse inquiétude, c'est effectivement que les maîtres d'ouvrage entendent cette nouvelle problématique, à savoir une hausse des prix de bon nombre de matériaux. On parle quand même d'une hausse de prix de 40% hein, en 3-4 mois. Hein. Alors, pas surtout, ça varie entre 20 et 40%. Quand il y a quelques années, on recevait une augmentation tous les ans. Aujourd'hui, selon les produits, on reçoit une augmentation tous les mois. Et là, en l'espace de 3-4 mois, effectivement, sur les aciers, sur les bois de construction, on est déjà à 40% d'augmentation, ce qui est juste colossal. Les entreprises ne vont pas pouvoir absorber ça. Donc, on alerte les maîtres d'ouvrage pour dire « attention, on va dans le mur sur les prix ». Il est important qu'on soit entendu. On sait que Bercy a entendu la problématique et compte revoir les règles des marchés publics pour qu'on puisse effectivement revoir nos prix en fonction du coût des matières premières. Donc, Bercy est prêt à revoir les règles des marchés publics. Et également, nous, au niveau local, ce qu'on demande, c'est un gel des pénalités de retard. Parce que les entreprises qui vont être arrêtées pourront le justifier par la pénurie de matériaux. On sait d'ores et déjà qu'il y a des entreprises qui subissent la pression de certains maîtres d'ouvrage. Et là, il faut absolument qu'on soit entendu là-dessus parce qu'on est dans l'impossibilité de faire face. Je veux dire, on n'a pas de matériaux, on ne peut pas continuer les chantiers. Si on ne peut pas finir les chantiers, on ne peut pas les facturer. Si on ne peut pas les facturer, il risque d'y avoir une réaction en chaîne qui risque d'être catastrophique. On va faire partir un courrier à tous les maîtres d'ouvrage publics et privés du département où on demande la plus grande vigilance et bienveillance quant à l'application des clauses de variation des prix et également la prolongation du délai d'exécution à une durée égale au retard d'approvisionnement qui sera constaté. Donc non-application des pénalités de retard qui va avec et puis en espérant que nos fournisseurs et les industriels puissent trouver des solutions très très rapidement, même si certains annoncent un retour à la normale pour la fin d'année, ce qui risque d'être très problématique.
Ils veulent accompagner la rénovation énergétique.
Dans le 04, c'est le conseil départemental qui coordonnera ce programme du SAR, le service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, avec le soutien du parc du Luberon et le pilotage de l'ALT, ou la LTE, agence locale de la transition énergétique. Une action pertinente tant les passoires thermiques et mauvaise utilisation des énergies sont nombreuses, et notamment dans les foyers défavorisés qui peinent à payer leurs factures et n'osent pas envisager des travaux. Les personnes intéressées peuvent s'adresser aux architectes conseillers du parc naturel régional du Luberon qui les aideront et les orienteront vers l'ALT. Déjà, 3 intercommunalités à Manosque, Fort-Calquier et Bannon sont engagées et l'ensemble des Alpes de Haute-Provence va suivre. D'autant que l'ALT, installée dans le Vaucluse voisin, prévoit prochainement un pied-à-terre à Digne et plus tard à Manosque. Écoutons les 3 acteurs de ce service professionnel, neutre et gratuit, Ismaël El-Walghiri, vice-président du parc et également élu à Manosque, puis le président de l'ALT, Pierre Chenet, mais d'abord René Massette qui préside le conseil départemental des Alpes de Haute-Provence. René Massette, le département des Alpes de Haute-Provence, après la transition énergétique, se penche maintenant sur la rénovation énergétique.
Exactement. Le département a pour ambition d'être le chef de file de la territorialité de tous les territoires. Pas parce qu'il est mégalo, mais parce qu'il veut aussi qu'aucun point du territoire ne soit oublié. Et donc, il me semble que c'est donc au niveau du département que cela doit être organisé, avec les communautés de communes, bien évidemment, avec les parcs aussi, de façon à ce que cette action, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, n'oublie personne. Pour cette action, nous, on finance à hauteur de 100 000 euros. La région met aussi de l'argent. Et puis, que ce soit le parc ou que ce soit Alt, ils mettent les moyens pour recevoir les gens dans une démarche de proximité et d'accompagnement.
Ça veut dire, par exemple, que les habitants du Haut-Verdon ou les habitants de Lubaye pourront bénéficier de ces services.
Ah ben, j'espère. C'est le but de cette convention. C'est tout le territoire qui doit être impacté, là aussi, par cette dimension. C'est un service qu'on rend à l'habitant. Et c'est ce service, il doit être rendu. Alors, je ne sais pas sous quelle forme, s'il faut mettre un bureau permanent ou des permanences. En fait, il faut que, d'une manière ou d'une autre, les habitants puissent avoir accès à ce service, si on veut diminuer l'empreinte carbone, si on veut diminuer les émissions à gaz de serre, etc., etc.
À vos côtés, le vice-président du parc du Luberon, Ismaël Eloi de Guigri. C'est un choix important et qui repose beaucoup sur le service des architectes conseils du parc.
C'est pas nouveau pour le parc parce que c'est une continuité en fait. Depuis 2016 à 2020, le parc a déjà accompagné plus de 2600 ménages pour la rénovation énergétique. Avoir le SAR maintenant, c'est une suite logique de ce qui fait déjà le parc dans son territoire.
Ismaël Eloi de Guigri, vous siégez également à la DLVA à Manosque, l'agglomération manosquine. Les EPCI sont mobilisés aussi sur ces questions de rénovation énergétique.
Oui, exactement, parce que la DLVA aussi a insisté pour que le parc intervienne et qu'il soit, on va dire, partie du SAR. Donc oui, c'est à la volonté de la DLVA que le parc aussi il est là aujourd'hui.
Il y a également une opportunité pour les artisans et le bâtiment.
C'est une opportunité pour les artisans et le bâtiment, oui, parce qu'il y aura des chantiers qui vont sortir. Jusqu'à maintenant, les gens ils n'arrivent pas à faire ces travaux-là. Et bien avec le SAR, ils arriveront à faire ces travaux. Donc ce sera des chantiers, des opportunités pour les artisans et pour les entreprises de 04.
Pierre Chenet, vous présidez ALTE. C'est une association qui s'occupe beaucoup de transition énergétique et qui n'est pas nouvelle. Vous avez 20 ans d'existence.
Voilà, 20 ans, c'est un bel âge, comme on dit. Et on a pu acquérir, avec ces années passées, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de connaissances qu'on met aujourd'hui au service des collectivités qui nous sollicitent, comme celle-ci aujourd'hui, le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence.
Concrètement, le SAR, comment ça va se passer ?
Le SAR, c'est un service tout à fait officiel, c'est un service public. C'est le service d'accompagnement à la rénovation énergétique qui permet aux habitants et aux petits tertiaires de venir nous rencontrer pour avoir des informations sur comment rénover le mieux possible leur maison ou leur commerce ou leurs petites entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'habitat produit beaucoup de gaz à effet de serre. C'est le deuxième producteur en France. Et donc, il s'agit pour atteindre les objectifs climat de la France de rénover ces bâtiments dans les meilleures conditions possibles. Et le SAR est là pour apporter concrètement des conseils, des aides, un conseiller qui va venir, qui va écouter et qui va donner des préconisations et des soutiens pour que cette rénovation se passe le mieux possible.
C'est un service gratuit ?
C'est un service gratuit, neutre, financé par des partenaires publics et des partenaires privés, à travers des certificats d'économie d'énergie. Et c'est comme ça que, loin de toute dépendance commerciale, on peut apporter des informations et des conseils neutres.
Sur cette question et sur d'autres, vous avez envisagé et vous envisagez de vous installer aussi, en tout cas logistiquement parlant, à Manosque et à Digne.
Nous avons déjà aujourd'hui notre siège social à Apt depuis des années. Et puis, nous avons un bureau à Avignon et un bureau à Carpentras dans le Vaucluse. Et nous allons ouvrir, justement, suite à la signature de cette convention avec le Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, nous allons ouvrir un bureau à Digne avec une personne dédiée qui a déjà été embauchée hier. Elle nous a donné son accord. Et nous allons ouvrir un bureau à Manosque. L'embauche de cette personne est en cours de progression, on va dire. Voilà.
La mutualité française dénonce la situation tendue au Chicas.
Suite à un grave conflit entre médecins, une ambiance délétère et plusieurs arrêts pour maladie, la situation du Chicas qui gère les hôpitaux de Gap et Sisteron est des plus préoccupantes, et pas seulement à cause de la crise sanitaire. Une inquiétude grandit quant à l'avenir des établissements et surtout l'accueil des patients. Cette situation fait réagir les présidents des délégations territoriales 04 et 05 de la Mutualité française Sud. Président de la délégation des Alpes de Haute-Provence, Rémi Charpie confie ses craintes au micro de Chris Alessandri.
Je suis pour ma part président de la délégation territoriale de la Mutualité française des Alpes-de-Haute-Provence. Et à ce titre-là, on a un œil attentif sur l'organisation et l'accès des soins dans le département des Alpes-de-Haute-Provence. Donc l'hôpital de Sisteron qui fait partie du CICAS donc, nous intéresse au premier chef. Donc dès qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'ensemble du CICAS, on est attentif.
La Mutualité française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France.
Oui, bien sûr, elle fédère toutes les mutuelles en France. Pour notre département des Alpes-de-Haute-Provence, la Mutualité française représente une quinzaine de mutuelles. Ça représente 48 000 assurés sociaux et environ 110 000 personnes couvertes.
René Charpie, alors actuellement une crise inédite qui vient mettre à mal le fonctionnement de l'hôpital public. Comment analyser cette situation ?
L'analyser pour nous, parce que c'est un peu compliqué. On a appris les choses ou par la presse ou par d'autres voies de personnes que l'on peut rencontrer dans les hôpitaux, c'est-à-dire sur les médecins, sur les organisations syndicales. Et lorsque on est placé face à un hôpital qui peut quasiment plus tourner parce qu'il y a un conflit interne ou mal géré ou mal appréhendé, ça nous surprend parce que ça met en cause plusieurs choses, c'est-à-dire l'accès aux soins d'abord pour les usagers. Alors, quand on parle des usagers, c'est bien sûr les malades et leurs familles. Ça intéresse aussi l'ensemble du personnel soignant, notamment dans le service qui est concerné. Ce sont des gens qui se retrouvent dans une situation de stress incompréhensible face à une telle situation. Et donc nous, on se dit, quand on regarde aussi qu'il y a un certain nombre de médecins qui ont démissionné ou qui s'apprêtent à le faire, ou des gens qui se mettent en maladie, là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va plus.
Avec également les déprogrammations d'opérations, hein, nous sommes dans un contexte compliqué, perturbé.
Tout à fait, oui, c'est vrai que j'avais pas cité ces éléments-là, mais ce que j'avais inclus dans l'ensemble du vocable accès aux soins. C'est-à-dire que déjà, c'est compliqué avec la situation Covid. C'est compliqué pour les hôpitaux de faire face à une situation, pour plusieurs raisons, hein, les situations antérieures, le nombre de lits de réanimation qui n'est pas suffisant, ça vient rajouter au stress, on rajoute du stress au stress. Je pense que c'est une situation qui est terrible et ça jette aussi le discrédit, enfin nous il nous semble, sur l'hôpital public. Le discrédit qui n'est pas du tout mérité, mais qui du point de vue de la gestion de conflits, ça nous paraît invraisemblable qu'on n'arrive pas à gérer une situation comme ça ou qu'on ne l'ait pas anticipé.
Et il est vrai que les personnels soignants et non-soignants sont les premiers à faire vraiment les frais de cette crise, ce stress qui s'ajoute.
Oui, parce que c'est dans les services concernés, ils ne peuvent plus tourner, ils ne peuvent plus assurer leur mission de service public, et on sait combien leur dévouement est important, hein, à tout le personnel soignant, même aux autres aussi, hein, qui permettent aux usagers que nous sommes d'aller se faire soigner, peuvent plus remplir leur mission correctement, et je comprends que ça les met dans des situations de stress, même si c'est des conditions psychologiques ou de conditions de travail qui sont déplorables.
Rémi Charpie, l'accès aux soins est donc forcément perturbé. Il est moins garanti.
Puis il n'est pas garanti, parce que là, oui, ça intéresse particulièrement le service d'orthopédie. Dans ce que j'en sais, et bien obligatoirement, ceux qui étaient prévus de se faire soigner ou de suivre ou des opérations petites ou plus importantes, ou qui avaient des rendez-vous et qui ne peuvent plus y avoir accès, bon, c'est d'autant de difficultés pour eux. C'est peut-être un peu plus de souffrance. C'est reporter aussi des opérations un peu plus loin, alors qu'on s'y est préparé auparavant, sans date prévu, parce qu'on ne sait pas quelle va être l'évolution de cette situation. Donc c'est effectivement délicat.
Nous sommes bien d'accord, ces dysfonctionnements constituent un grave problème de santé publique en ce moment.
Oui, c'est un problème de santé publique dans la mesure où l'hôpital public qui est géré par l'État, à un moment donné, se doit de remplir ses missions dans les meilleures conditions. Et là, c'est pas le cas. Donc il nous semble que, quand on dit que c'est une situation qui est invraisemblable, c'est dans son manque d'anticipation. Alors nous, on n'a pas rentré dans les conflits médicaux entre médecins, c'est pas du tout notre ressort. Nous, ce qu'on demande, c'est aux personnes, donc aux services de l'État qui ont la gestion de l'hôpital en main et qui possèdent les leviers d'intervention, d'intervenir, d'agir pour faire en sorte que l'hôpital retrouve au plus vite tous ses moyens de fonctionner correctement.
Mettre un terme à cette situation ?
Oui, ça nous paraît profitable pour tout le monde. D'abord pour les personnels concernés, puis ensuite pour les usagers qui pourront retourner à l'hôpital en toute tranquillité.
De quelle façon pouvoir réagir rapidement et pouvoir trouver un terrain de conciliation ?
Là, je dirais que c'est au gestionnaire de l'hôpital de le faire. Nous, on n'a pas interféré en la matière, d'autant qu'on n'est pas gestionnaire de l'hôpital et on n'a pas les capacités à l'être, et encore moins à dire ce qu'il faut faire. Mais dans tous les cas, il nous semble que ceux qui ont les leviers d'action dans les mains se doivent de prendre les choses à bras-le-corps et de faire. C'est du ressort des services de l'État. Nous, on avait marqué dans nos publications que ça relevait de l'ARS, parce que nous considérons que c'est l'ARS qui gère les hôpitaux. La préfète des Hautes-Alpes donc dit que c'est pas du ressort ressort de l'ARS. Pour nous, on veut bien la croire. Mais dans tous les cas, c'est du ressort de l'État de chercher rapidement à régler cette problématique. Hein, parce que c'est pas possible autrement.
Rémi Charpie, en tant que président de la délégation territoriale des Alpes de Haute-Provence, pour définir le moral, l'état dans lequel vous êtes là actuellement sur ces derniers jours.
Alors nous, on est très attentifs à cette situation, à la fois pour le personnel et à la fois pour les usagers. Et puis, lorsque l'on fait un communiqué public avec ma collègue des Hautes-Alpes, Marie-Vonne Vétillard, c'est justement pour à la fois informer les usagers, même si on n'est pas tout seul, hein, et en même temps informer les pouvoirs publics que nous sommes attentifs à cette situation que nous jugeons toujours invraisemblable.
Castellane, le maire évoque la situation économique locale.
Nous vivons une crise sanitaire, mais aussi sociale et économique. Si la grande distribution et la vente par correspondance ont vu se déployer leur chiffre d'affaires durant un an, qu'en est-il des professionnels du tourisme ou du spectacle, mis à l'épreuve pour la troisième fois et plongés dans l'expectative d'une reprise ou d'un coup de grâce ? Bernard Liperini, maire de Castellane, dépeint au micro de Véronique Hermand un tableau préoccupant et anxiogène de la période d'attente des professionnels castellanais.
Monsieur le maire, quelle est la situation des commerçants sur le village de Castellane ?
Aujourd'hui, les commerçants ont une forte pression qui est due à ce contexte anxiogène, qui est due à cette situation sanitaire hors norme que l'on connaît. Le commerce est très impacté à Castellane par la saison touristique, la saisonnalité est très forte. La saison commence traditionnellement avec les fêtes de Pâques et elle se termine traditionnellement, si je puis dire, avec les fêtes de la Toussaint. Elle est étalée sur 6 mois, ça monte en puissance à partir du mois d'avril, avec un temps fort en juillet-août, bien sûr, et un petit peu sur septembre. Ce qui est perdu, c'est perdu. Ce qui n'a pas été fait pour le week-end de Pâques, malheureusement, ça ne se rattrapera pas. Les commerçants qui étaient prêts à ouvrir n'ont pas ouvert. Ils attendent avec beaucoup d'anxiété que le gouvernement statue sur les dates d'ouverture, notamment du CHR. Et le gros de l'activité commerciale ici, c'est le CHR, café, hôtel, restaurant. Ils sont tous dans les starting blocks, mais pour l'instant, ils n'en peuvent même, ils n'ouvrent pas. Pour l'instant, je pense que c'est pas trop préjudiciable, parce que, comme je vous le disais, bon, ça monte en puissance doucement, mais il faut à tout prix que les ouvertures de ces cafés, hôtels, restaurants et des autres commerces puissent se faire à partir du 15 mai. Si ça se faisait plus tard, ça serait préjudiciable sur l'activité, sur la rentabilité, aussi sur la gestion de chacun, parce que cette activité saisonnière nécessite forcément des embauches de saisonniers. Donc il faut se positionner dès maintenant sur le marché parce que les demandes d'emploi sont rares. Hein. Donc il faut signer des contrats, des CDD sur 6 mois, même s'il y a le chômage partiel qui a été mis en place pour contrebalancer cette situation. C'est compliqué d'embaucher sans visibilité. S'il devait y avoir des annonces différées de la part du gouvernement sur les dates d'ouverture, je pense que ça handicaperait beaucoup le commerce local. Tout le monde est bien conscient de la situation. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une bonne communication. Que si une date est annoncée, cette date soit véritablement tenue. On ne peut pas fonctionner, que ce soit les commerçants, que ce soit la mairie, que ce soit tous les corps de métier, en repoussant une date d'ouverture de 15 jours en 15 jours. Ce n'est pas possible. Le commerce, c'est un tout. Hein. On ne peut pas dissocier le commerce de la mairie, de l'associatif. Les touristes viennent, bien évidemment, parce que c'est les gorges du Verdon, mais aussi parce qu'à Castellane, il y a des activités pendant cette saison. Si sur le plan associatif, sur le plan de nos manifestations, on ne peut pas organiser par exemple la fête de la transhumance, nos concerts musicaux, bien évidemment le commerce en pâtira aussi. Parce que d'un autre côté, il faut réserver nos groupes de musiciens, réserver des exposants pour cette grosse fête de la transhumance. On est un peu comme les commerçants, on est dans l'expectative, on attend, on essaye de gagner du temps, de différer nos décisions, mais ça aura un terme. À un moment donné, il faudra bien dire oui ou non, on embauche des personnes. Pareil, par exemple, pour la piscine, on a déjà embauché un ménageur. Aujourd'hui, on se roule les pouces. On doit en embaucher une deuxième, des BNSSA, des surveillants de baignade. Qu'est-ce qu'on fait ? Les embauches ? Les embauches pas. L'année dernière, la piscine n'a pas été ouverte. Dans cette offre qu'on propose à nos touristes, c'est un manque. Tout est lié. L'économie, c'est l'équilibre de toutes ces forces vives.
Oui, il y a tous les dégâts collatéraux comme les saisonniers, les maraîchers, enfin
saisonniers, les producteurs, les producteurs. Bon, aujourd'hui, les intermittents du spectacle. Donc tous nos contrats avec les intermittents du spectacle, les groupes de musiciens, ils sont signés sous réserve. N'empêche qu'il faut bien se décider où ils viennent ou ils viennent pas.
Et vous rencontrez les commerçants, vous avez des réunions?
Alors,
Comment ils se sentent, quel est leur état?
Alors, j'en ai rencontré individuellement. Ce qui ressort, c'est cette anxiété, cette inquiétude de l'avenir. J'ai rencontré l'association des commerçants, on a parlé des festivités à mettre en place. On essaye de conjurer le sort en espérant qu'au 1er ou au 15 mai, tout va réouvrir. On est virtuellement prêt. Alors, c'est certain qu'on a parlé des difficultés du moment. Pour l'instant, la situation n'est pas dramatique. Les trésoreries sont au plus bas, parce qu'en fait, c'est la trésorerie qui rythme l'inquiétude des commerçants. Ils peuvent, je pense, encore tenir pour certains encore un mois. Mais si jamais ils n'étaient pas ouverts au mois de mai, ça serait très, très embêtant. Voilà, on est dans une situation, encore une fois, inédite, extraordinaire, et le mot est galvaudé, mais c'est bien ça, une situation extraordinaire que personne ne connaissait, tout au moins les gens de notre génération. On est là, suspendu à des décisions du gouvernement, aussi à l'évolution du virus, des vaccins, des doses, de la vaccination. On gère au quotidien, les informations changent, modifient le raisonnement de la veille. Bon, c'est ainsi, il faut être souple, il faut s'adapter. En fait, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux quand on veut gérer. Gérer, c'est prévoir. Et nous, les saisons, encore une fois, c'est une grosse activité touristique, il faut la prévoir bien en amont pour que ça se passe bien.
Sur le plan du virus, quel est le taux de létalité à Castellane?
Alors, j'ai pas les statistiques parce que l'ARS, pour des raisons de secret professionnel, ne communique pas. Les médecins, pareil. Bon, je pense qu'il y a eu un décès avéré de Covid que je connaissais, donc c'était un ancien adjoint à la mairie de Castellane. J'avais demandé à sa famille si vous pouvez communiquer dessus. Elle m'avait dit oui, donc c'est pour ça que je peux en parler. Donc, à ma connaissance, il y a eu un décès lié au Covid. Officiellement, j'ai pas de chiffres sur les décès.
La foire exposition 2021 en préparation à Sisteron.
C'est au cours de l'assemblée générale de la structure et avec une confiance affichée que ses responsables ont annoncé qu'elle se tiendra en octobre prochain. Créée voilà plus de 30 ans, la foire exposition a su acquérir un grand succès dans les départements alpins. Pour les raisons de sécurité face à la pandémie Covid, l'édition 2020 avait été annulée. Comment les organisateurs ont-ils vécu cette décision et de quelle façon aujourd'hui envisage-t-il l'édition 2021? Jean-Pierre Bois, président de la Foire Expo, et Daniel Spagnou, maire de Sisteron, répondent aux questions de Chris Alessandri.
Avec les événements de cette grande pandémie mondiale que nous vivons tous pleinement en ce moment encore, la décision a été complètement acceptée. On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas faire une foire exposition avec du public, sous une structure couverte, etc. La décision de la préfète et du maire était tout à fait légitime.
La réaction des exposants, vous aviez le plein au niveau des exposants?
On était complet, mais on avait dans nos contrats qu'on aura toujours la possibilité de rembourser à 100%. Donc on a remboursé les exposants à 100% de suite. Dès qu'on a annulé la foire, on a remboursé la totalité des compte versé, et c'est vrai que nous étions complets. Bon, cette année, on a mis la même chose dans le règlement et dans la réservation. Les dossiers vont partir la semaine prochaine parce que nous venons de faire l'Assemblée Générale avec les mêmes conditions de remboursement éventuellement.
Jean-Pierre Bois, vous venez de réunir le bureau de la foire exposition. Qu'est-ce qui ressort de cette rencontre pour la foire à venir?
Il en ressort qu'on va tenter de faire la foire exposition de Sisteron à compter du 7 octobre jusqu'au 10 octobre avec juste un changement de date où on démarrera l'inauguration le jeudi et on finira la foire le dimanche au soir, ce qui change par rapport aux autres années où on était du vendredi au lundi. Certains exposants voulaient enlever un jour, dont on ne peut pas enlever un jour. Par contre, on est resté sur une base de 4 jours en enlevant le lundi, qui était quand même une journée relativement faible en visiteurs. En matière d'animation, l'année dernière, on avait réservé donc pour faire la 37e foire exposition déjà des animations. J'ai eu les agents avec lesquels nous travaillons. Les animations qu'on avait prévues l'année dernière, sur lesquelles on a versé des acomptes, sont maintenues. Les artistes viendront, donc on aura toujours Ingrid Chauvin à l'inauguration, et on aura le groupe Aioli de Marseille et de Toulon avec son manager principal Yves Pujol qui sera là le dimanche après-midi pour un beau spectacle à Sisteron.
C'est une projection que vous faites dans le temps. De quelle façon est-ce que vous abordez justement les engagements qu'il va falloir respecter aussi?
Alors l'année dernière, on avait déjà des engagements qui avaient été donnés parce que, par la commission de sécurité que l'on demande au mois de juillet et au SDIS et à la préfecture. Et l'année dernière, on avait simplement une seule contrainte, c'était certainement le nombre de visiteurs en même temps. Il y avait une jauge de 5000 pour les spectacles donc à l'époque, et on était On est toujours en dessous des 5000, on n'a pas de prétention énorme. Donc on passait en jauge. Il n'y avait qu'un point noir qui était la buvette où il y a souvent des attroupements. Il aurait fallu peut-être la délocaliser, la sortir de la structure et la mettre sur les bords de l'allée des arcades pour qu'elle ne soit pas dans la structure où on est une multitude de gens en même temps regroupés autour d'un verre, donc ce qui veut dire sans masque. Voilà, le gros problème, il était là. Mais j'en avais parlé avec le président Jean-Paul Laurent qui gère la buvette. Ils étaient tout à fait favorables à venir en délocalisant quelque peu de quelques dizaines de mètres la buvette hors de la structure. Cette année, je pense que les conditions vont être à peu près les mêmes. On ne sait pas la commission de sécurité départementale faite par la préfecture et par le SDIS qui vont nous imposer peut-être une jauge de personnes. Mais ça, bon, on verra en temps utile et on avisera.
Est-ce que l'âme de la foire de Sisteron va rester intacte?
Je pense qu'elle va rester intacte parce que il y a déjà des exposants qui nous ont contactés ou qui continuent de nous contacter. Là, je viens de voir avec notre secrétaire, Madame Blanc. On a plein de demandes d'exposants. Les exposants veulent faire la foire exposition. Pour eux, c'est une vitrine incontournable et publicitaire et de prise de contact et de rendez-vous. Et ils en ont fortement besoin. Les artisans et les commerçants ont besoin d'être présents à une foire exposition comme celle de Sisteron qui a, comme tu viens de le dire, Chris, 38 ans d'existence.
Et c'est derrière tout ça, toute une équipe. Les coudes bien soudés et qui est toujours là.
Ben oui, les coudes bien soudés et l'équipe elle est toujours là. D'ailleurs, on vient de faire l'assemblée générale, il n'y avait que deux absents, retenus par des obligations professionnelles. Tous les autres, ils étaient là. Mais les membres de la foire sont toujours là. Et ils passent voir Jeannette au bureau, ils appellent Jeannette, ils m'appellent moi, on est toujours resté en relation. C'est une équipe qui est soudée, on se connaît depuis de nombreuses années. Il y a des élus dans le conseil d'administration et puis il y a des bons collègues de Sisteron qui sont là depuis des années et qui soutiennent la foire exposition de Sisteron.
Un petit rappel sur le créneau des jours d'ouverture et de la foire exposition, 38e édition.
38e édition, donc du jeudi 7 octobre, 9h, ouverture au public, inauguration 10h avec les autorités et notre marraine, fermeture le dimanche soir au lieu du lundi, et tous les jours, 10h, 19h tous les soirs.
Daniel Spagnou, la foire exposition de Sisteron, elle aura lieu?
Bah écoutez, oui, je suis soulagé. Déjà, je vois que l'équipe est toujours soudée, toujours présente, est toujours enthousiaste, passionnée. Donc voilà, déjà, ça, c'est rassurant. Après, bien sûr, savoir comment on sera au point de vue virus au mois d'octobre prochain, ça, on n'en sait rien. C'est pour tous les projets, d'ailleurs, quelle que soit l'association, pareil. Alors, je crois qu'il faut aller de l'avant. Donc, on va faire comme si la foire expo aura bien lieu en octobre. D'ailleurs, s'il y avait encore la pandémie, mis en octobre, ce serait extrêmement grave pour le pays. Donc je pense quand même que ça ira beaucoup mieux. La marraine qui devait venir l'année dernière va venir cette année. Tout est organisé, le budget est voté. Le conseil municipal votera demain soir l'enveloppe des subventions. La foire expo, bien sûr, en fait partie. On va prier le ciel pour que tout se passe bien et qu'on en finisse enfin de cette épidémie qui est terrible, qui crée des problèmes économiques, des problèmes relationnels, des problèmes sociaux. On ne peut pas s'imaginer, il faut être maire en ce moment pour se rendre compte quand même de la difficulté des gens, des familles qui sont dans des difficultés extrêmes, qui viennent voir les maires dans leurs communes, là où il y a des bureaux d'aide sociale, donc on essaye d'aider les gens, mais il arrivera un moment où on ne pourra plus. Les finances locales sont mises à mal, d'autant plus qu'on n'a pas eu les aides escomptées.
Daniel Spagnou, la foire exposition de Sisteron, c'est un repère au niveau régional avec un impact, avec des retombées. Qu'est-ce qu'on peut en dire là à l'heure actuelle? Comment est-ce que vous l'entrevoyez?
Déjà, on a bien vu qu'en 2020, le fait qu'elle n'ait pas lieu, bien, ça a été un pan de l'économie qui a manqué à la ville de Sisteron. Non seulement au point de vue économique, recette, mais aussi à image. Parce que justement, la foire expo, c'est aussi l'image de Sisteron qui montre que dans une ville de 8000 habitants, on peut organiser une grande manifestation comme une grande ville. C'est ce qu'on avait voulu faire dès le départ. On dit bien Sisteron, petite ville au grand renom. Donc la foire expo, c'est ça aussi. C'est cette image magnifique qu'on donne à l'extérieur avec des visiteurs importants. Et je crois que ça compte autant que le point de vue économique, ce que ça apporte pendant une semaine, les hôtels qui seront complets, les restaurants qui travaillent. Ça, c'est bien, mais je pense que ce qui est important, c'est de montrer à l'extérieur qu'en octobre prochain, ça y est, la crise est finie, la ville de Sisteron, eh bien, elle est debout, elle a passé tous ces mauvais mois, maintenant on repart dans de bonnes conditions et on va prouver une fois de plus qu'on est les meilleurs.
Quand le petit brillant sonnait, évoquait la France en 1921.
Au sortir de la guerre et dans un pays dévasté il y a tout juste 100 ans, un journal local mettait en une la situation économique de la France et également plusieurs articles sur des sujets plus locaux. Hebdomadaire teinté de démocratie, le Petit Briançonnais a été fondé en 1903. journal local de Briançon, il coûtait 15 centimes d'anciens francs et il était possible de s'abonner partout dans les Hautes-Alpes, d'autres départements et même à l'étranger, 12 francs pour 6 mois. Les éditions du Petit Briançonnais sont consultables aux archives municipales de Briançon et à la médiathèque Laruche. Arnaud Gagneux, responsable des archives, présente l'édition du 23 avril 1921 au micro de Susanna Wright.
Arnaud Gagneux, vous êtes responsable des archives municipales de Briançon et aujourd'hui, le 23 avril, vous allez nous présenter le journal Le Petit Briançonnais du 23 avril 1921.
Oui, qu'est-ce qui se passe il y a 100 ans dans Le Petit Briançonnais? Donc à la une, on parle de la situation économique de la France puisqu'elle n'est pas... Elle n'est pas rose. Hein. Après la Première Guerre mondiale, donc les finances ne sont pas bonnes. On a mention que la France souffre et est meurtrie, ensanglantée. Elle a gagné la guerre, mais à quel prix? Donc il y a mention évidemment de la dette que la France a. Donc on a 25 milliards 300 millions de dettes. Ce qui est énorme, mais c'est des anciens francs. Donc, et du coup, on a mention beaucoup de l'Allemagne, hein, puisque il faut savoir que l'Allemagne, depuis 1919, par le traité de Versailles, doit payer de lourdes réparations, et surtout des réparations financières. Mais on nous a dit que l'Allemagne paierait, voilà, donc avec un discours un peu revendicatif. Bien qu'on voit que le Petit Briançonnais, quand même, a un ton peut-être... qui s'étonne de cette situation par rapport à l'Allemagne. Donc, ils sont peut-être pas favorables à ce que l'Allemagne paye le prix fort. Et voilà, il n'y a pas que l'Allemagne qui est en cause. L'Allemagne ne doit pas forcément être la cause de tous nos malheurs.
Donc, c'est un long article, quand même, écrit par...
Par Jean de Savine, donc peut-être un journaliste, un correspondant du Petit Briançonnais. On ne sait pas, ou c'est peut-être aussi un pseudonyme. Hein. On n'a aucun moyen de savoir qui il était. Hein.
Première page.
C'est la une, donc ouais, une pas très joyeuse. Mais ensuite, on va passer à des choses plus locales, puisque au mois d'avril, nous sommes en pleine préparation des prochaines élections législatives qui ont eu lieu apparemment le 8 mai. Et on a la profession de foi, du candidat, Monsieur Planche. Monsieur Planche, apparemment, il souhaite travailler sur la question de l'hydroélectricité, puisque apparemment, il parle de travaux hydrauliques, dans le département. Il parle aussi des voies de communication, donc sûrement des améliorations. Il parle de l'agriculture, il parle même des mines.
Et il est très connu dans les Hautes-Alpes, apparemment.
Il est déjà conseiller général, en fait, depuis 15 ans. Donc, c'est quelqu'un qui a déjà donné un peu en matière politique dans les Hautes-Alpes. Mais en fait, c'est pas vraiment sa profession de foi, c'est plutôt un résumé de son programme qui est fait sûrement par le journal. Voilà, en fait, on nous signale que c'est en réponse à de nombreuses demandes qui parviennent au journal. Et ils ont voulu un peu résumer la candidature de Monsieur Planche.
Est-ce qu'on sait s'il a été élu après ?
Eh ben, on le saura peut-être dans le journal du 8 mai. Hein. On va garder le suspense, hein. Il faut pas tout dévoiler.
Et il y a quoi d'autre ?
Alors du coup, on a une petite chronique locale sur Briançon, des monuments aux morts. La question de la souscription, donc qui va réaliser le monument aux morts ? Donc c'est pour un peu résumer l'histoire des monuments aux morts en France. Après la guerre, en fait, il y a un vaste programme national de commémoration des morts de la Première Guerre mondiale. Énormément de communes vont vouloir ériger un monument aux morts et vont faire appel à une souscription. Donc une souscription, c'est un peu comme les marchés publics maintenant, actuellement. Donc c'est des entrepreneurs ou des artistes qui vont candidater pour réaliser ces monuments.
Existent toujours.
Qui sont toujours là et qui vont être modifiés, puisque maintenant, dans les monuments aux morts, il n'y a pas que la mention des morts de 14-18, mais il y a aussi les morts de d'autres conflits. Donc on a les morts de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre d'Algérie, de la guerre d'Indochine. À Briançon, apparemment, en fait, c'est une souscription, mais en fait, c'est plus un appel au don. On a un banquet, apparemment, qui a été organisé lors du mariage Spaggiari et Roland. Donc, il y a des fonds qui ont été collectés lors de ce mariage. On a un don de Monsieur Martin au 23 avril de 1921. On a 22 000 francs à peu près qui ont été récoltés déjà pour l'érection du monument aux morts. Mmh. Alors parfois aussi dans le journal, on peut avoir des mentions de ce qui s'est passé au conseil municipal. Et là, par exemple, on a une décision qui a été prise par les conseils cantonaux. Donc c'est une allocation journalière, donc quotidienne, pour soutenir les familles. Donc on donne de l'argent tous les jours à des familles. Donc c'est, on va dire, une décision sociale. Il faut dire que pareil, on est dans le contexte de la sortie de la guerre de 14-18. On va venir aider les familles. On a aussi, pareil, des aides qui vont être données aux veuves de guerre. On a la mention que l'atelier école de bonneterie et de mode est ouvert à toutes les veuves pensionnées de la guerre. Et les veuves de guerre devaient avoir des aides. Donc soit on leur fournissait de l'argent, mais aussi on peut leur fournir en nature des vêtements, de la nourriture. Souvent, il y a aussi le système des bons qu'on peut leur donner. On a toujours des avis de vente, soit à Briançon, soit dans les communes aux alentours, avec évidemment des publicités, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la publicité finance en fait la publication du journal. Hein, donc on a des boutiques qui font usage du journal pour allécher les lecteurs du journal pour avoir des clients supplémentaires. Donc on a un vendeur de montres, en plus un vendeur apparemment qui est à Besançon. Donc, la mention aussi de chocolat Lesdiguières, pareil, qui sont en vente à la pharmacie de Monsieur Ponce à Briançon. Donc on a toujours la mention que le chocolat ferait bon effet pour les malades. D'après ce qu'on voit, hein. Il y a aussi la mention du prix de
la publicité.
De la publicité, ouais. Donc ça va de 50 centimes de francs jusqu'à 75 centimes. Tout est payant. Donc le journal est fondé en 1903.
Merci beaucoup Arnaud et à très bientôt pour découvrir si Monsieur Planche était élu.
Est-ce que Monsieur Planche a gagné grâce à son programme ambitieux qui était favorable en fait au retour de l'industrie dans les Hautes-Alpes?
Merci François. On se retrouve la semaine prochaine pour Force 7.
Merci Olivier, à bientôt.